Le journal présenté par Maxime Fayol.
Bonsoir à tous. Theresa May est mise en difficulté ce soir par le vote des parlementaires britanniques. Ils ont dit non à un amendement sur la façon dont la Première ministre aborde les prochaines négociations avec l'Union européenne. Un camouflet, nous expliquera Antoine Gignot. L'aide humanitaire toujours bloquée aux frontières du Venezuela. Le pays est en pleine crise et Nicolas Maduro refuse l'aide américaine. Une conférence s'est tenue sur le sujet à Washington, récit de Grégory Phillips. Les adieux à Bordeaux d'Alain Juppé, l'ancien Premier ministre va entrer au Conseil constitutionnel. Il a tourné la page bordelaise aujourd'hui, non sans émotion, l'analyse de Stéphane Robert. Et notre invité ce soir, Antoine Soulas, un étudiant à l'origine de l'appel à manifester demain des jeunes devant le ministère de l'écologie pour demander des actions concrètes pour le climat. Le bras de fer continue au Royaume-Uni à propos du Brexit entre les parlementaires et Theresa May. Ce soir, la Première ministre a vu sa position encore fragilisée par un vote de la Chambre des communes. Un vote qui renforce l'hypothèse d'un no deal, Antoine Gignot, une sortie de l'Union sans accord.
Le mois dernier, Theresa May se targuait d'avoir réuni derrière elle une majorité substantielle et durable. Il aura fallu moins de 2 semaines pour que cette unité de façade se disloque. En votant contre la Première ministre, les députés eurosceptiques font passer un message essentiel. Ils sont prêts à entraîner le Royaume-Uni vers une sortie de l'Union européenne sans aucun accord. Certains, parce qu'ils considèrent que ce scénario catastrophe peut permettre d'arracher in extremis quelques concessions à Bruxelles. D'autres, parce qu'ils sont fermement persuadés que l'avenir du pays repose sur les échanges commerciaux avec l'Asie et les États-Unis. Dans les deux cas, ils ont sciemment savonné la planche déjà glissante sur laquelle marche la chef du gouvernement. Une dizaine de ministres menacent de démissionner s'ils n'obtiennent pas un report du Brexit. Difficile d'imaginer qu'une Theresa May affaiblie, acculée, privée de majorité, puisse désormais continuer à discuter sereinement avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, ou avec Michel Barnier. Le négociateur de l'Union européenne a d'ailleurs déjà prévu de rencontrer la semaine prochaine un autre interlocuteur. Il va, selon le Guardian, s'entretenir avec Jeremy Corbyn, le patron des travaillistes. Mais si la droite est en déconfiture, la gauche n'a pas non plus de véritable solution pour le Brexit. 41 députés viennent de voter contre l'avis de leur chef de file et demandent une prolongation des négociations. Plusieurs d'entre eux menacent aussi de quitter le parti si Corbyn ne se prononce pas clairement pour l'organisation d'un deuxième référendum.
Antoine Gignot, l'aide humanitaire américaine va-t-elle atteindre le Venezuela? Le gouvernement de Nicolas Maduro a envoyé des militaires pour bloquer la frontière avec la Colombie. C'est là que plusieurs conteneurs cherchent à entrer dans le pays à la demande de Juan Guaido, le président par intérim reconnu par de très nombreux pays. Une conférence sur la crise humanitaire en Venezuela s'est tenue aujourd'hui à Washington pour tenter de trouver une issue, Grégory Phillips.
La conférence mondiale de crise humanitaire à Venezuela.
La conférence a lieu au quartier général de l'Organisation des États américains qui regroupe 35 membres. C'est le président par intérim Juan Guaido qui est à l'origine de cette réunion consacrée à la crise humanitaire que traverse son pays. Pénurie de nourriture, de médicaments. À l'ouverture des débats, un film rappelle que selon les Nations Unies, 2 millions de personnes ont fui le Venezuela en 3 ans. Et selon les chiffres du gouvernement Guaido, environ 300 000 enfants sont victimes de malnutrition. L'ambassadeur Carlos Vecchio représente le gouvernement par intérim ici à Washington.
Ese es el drama que se está viviendo en Venezuela. Affecta a todos los venezolanos sin importar su condición sociale.
C'est ça le drame que l'on vit au Venezuela. Il touche tous les Vénézuéliens, quelle que soit leur condition sociale. C'est ça qui est au centre de notre lutte et de la douleur qui frappe notre pays. C'est pourquoi cette conférence doit mettre l'accent sur cette profonde crise humanitaire qui est la pire de l'histoire récente de ce continent. Pendant qu'eux ferment les portes à l'aide humanitaire, nous devons ouvrir des milliers de fenêtres pour que l'aide humanitaire arrive au Venezuela.
L'aide humanitaire envoyée par les Américains permettrait de répondre aux besoins d'environ 40 000 personnes pendant 10 à 90 jours, mais les stocks de nourriture et de médicaments restent pour l'instant bloqués à la frontière colombienne. Guaido dit que cette aide doit entrer dans le pays le 23 février prochain, mais Nicolas Maduro, qui nie toute crise humanitaire, s'y oppose, car pour lui ce serait un prélude à une intervention militaire de la part des États-Unis. En attendant, les conteneurs s'accumulent aux frontières, en Colombie mais aussi au Brésil, et les Pays-Bas annoncent qu'ils vont installer bientôt un centre logistique. logistique d'aide humanitaire sur l'île de Curaçao, à 700 km environ des côtes vénézuéliennes.
Grégory Phillips, les États-Unis et Donald Trump qui pourrait déclarer l'urgence nationale pour financer son mur à la frontière avec le Mexique. C'est pour le président la condition sine qua non afin de signer le compromis budgétaire qui évitera un nouveau shutdown dans le pays. Les États-Unis qui sont également salués, et c'est assez rare pour être souligné, par la Russie, l'Iran et la Turquie. Ces trois pays considèrent le retrait américain en Afghanistan comme un pas positif pour stabiliser la situation en Syrie. 22h05 sur France Culture, le groupe Renault publie ses résultats pour l'année 2018 et ils sont bons malgré la tempête Carlos Ghosn qui balaye le constructeur depuis plusieurs mois, mais aussi malgré la crise du diesel. Renault atteint donc ses objectifs pour l'an passé mais se veut un peu plus prudent pour cette année 2019, Hakim Kasmi.
Pour cette année, Renault table sur une stagnation du marché mondial et européen. En cause, la croissance molle en Europe, mais aussi les conséquences que pourrait avoir un Brexit dur. À cela, il faut ajouter la hausse des matières premières et les nouvelles normes environnementales qui vont augmenter le prix des voitures. Quant à l'avenir de l'Alliance, Thierry Bolloré, le nouveau directeur général de Renault, a déclaré qu'il était irréversible, en faisant taire toute rumeur de fusion ou de baisse de participation de Renault au capital de Nissan.
Pour nous, c'est plus d'alliance, c'est mieux d'alliance. C'est une alliance qui soit le plus fluide possible, le plus rapide possible dans les prises de décision qui nous intéresse. Et c'est ça notre objectif, pour avoir bien sûr le maximum de synergie, mais aussi la vitesse d'exécution, de prise de décision qui sied à un marché automobile qui est en pleine mutation. Et là, le paysage évolue. Et en conséquence de quoi, forcément, on s'intéresse à savoir comment est-ce qu'on peut faire, on peut adapter notre alliance pour répondre à ces nouveaux défis qui sont ceux de l'automobile dans le monde aujourd'hui.
Malgré les incertitudes ambiantes, Renault a également confirmé les objectifs moyen terme de son plan Drive the Future avec, il l'espère, un chiffre d'affaires supérieur à 70 milliards d'euros grâce notamment à une meilleure productivité d'ici 2022.
Les précisions d'Hakim Kasmi. L'État ne préconise pas de changement à la tête d'EDF. Emmanuel Macron souhaite que le PDG actuel et depuis 2014, Jean-Bernard Lévy, soit reconduit pour un nouveau mandat. Le nom sera soumis à la prochaine Assemblée Générale au mois de mai. Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat devront avant tout valider ce choix. Il en sera de même d'ailleurs pour un autre choix validé lui hier. C'est la nomination d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel. Le maire de Bordeaux va donc quitter sa ville, lui qui y est arrivé en 1995 et qui ne l'a quitté que pendant ses 14 mois d'inéligibilité entre 2004 et 2006. C'est une sortie un peu surprise, Stéphane Robert. Et Alain Juppé a tenu une conférence de presse ce matin pour tirer sa révérence.
Alain Juppé s'est longuement expliqué devant les Bordelais sur ce qui l'a conduit à faire ce choix de quitter l'Aquitaine pour la capitale Paris et le Conseil constitutionnel, et il n'a pas pu retenir quelques larmes.
Je n'ai pas pris ma décision de gaieté de cœur. Avec Bordeaux, nous sommes en quelque sorte un vieux couple. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé. À qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi.
Depuis hier 17h, moment où l'information est tombée via les alertes sur les téléphones portables, tout le monde s'interroge. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser Alain Juppé à déguerpir de la sorte alors qu'il avait promis d'aller au bout de son mandat et qu'il n'a rien préparé pour passer le témoin ? Il a esquissé ce matin un semblant d'explication.
Aujourd'hui, l'envie me quitte. La montée de la violence verbale et physique, le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés tous pourris, bref, l'esprit public, la vie publique sont difficiles à vivre et lourdes à porter.
Il est vrai que le mouvement des Gilets jaunes l'a beaucoup marqué, explique-t-on dans son entourage à Bordeaux, d'autant que la contestation là-bas est particulièrement virulente. Et puis là, ce poste qui lui tend les bras au Conseil constitutionnel, l'occasion ne se représentera peut-être pas, reprend une conseillère municipale d'opposition, et Juppé a besoin de se projeter vers quelque chose d'honorifique. Mais ce départ précipité reste pour beaucoup inexpliqué. Et les larmes d'Alain Juppé ce matin n'ont fait qu'ajouter un peu plus encore à la perplexité.
Stéphane Robert, et on apprend ce soir que la première adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux, Virginie Calmels, quitte la vie politique. Les jeunes Français se lancent à leur tour dans la bataille du climat. Ils lancent une grève pour le climat, à l'image des nombreuses manifestations européennes de la jeunesse ces dernières semaines. Collégiens, lycéens et étudiants français se donnent rendez-vous demain à 14h devant le ministère de la Transition écologique. Avec nous pour en parler ce soir, Antoine Soulas, étudiant à l'École normale supérieure. Vous êtes d'ailleurs à l'origine de cet appel à manifester. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors la jeunesse française, je disais, se lance enfin dans des rassemblements. Pourquoi ça a pris plus de temps côté français ?
Alors, toute l'Europe n'est pas encore engagée, mais c'est vrai qu'on la France a un peu tardé par rapport à d'autres pays. J'ai pas d'explication toute faite, mais ben, en fait, c'est un peu notre responsabilité à nous, les écolos, les associatifs écolos étudiants. Peut-être parce que notre collectif de désobéissance était encore en formation là, récemment. On s'est formé qu'en septembre et puis on était un peu en structuration. Et donc voilà, le bon moment. Et puis il a fallu l'étincelle de quelqu'un qui dit « Allez, on y va ». Et puis voilà, c'est venu finalement que maintenant.
Vous parlez de désobéissance. C'est un principe qui a été donc voté en Assemblée Générale, il me semble. C'est pas quelque chose qu'on retrouve très souvent, cette idée de désobéissance civile, notamment chez les jeunes. C'est peut-être pour ça que c'est plus dur de trouver des personnes pour venir avec vous.
On verra, on ne sait pas encore combien on va être demain. Hein. Peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et si les médias ont bien fait leur travail et qu'ils ont bien le relayé, peut-être qu'on sera beaucoup plus que ce qu'on imagine. Mais c'est vrai que c'est notre marque de fabrique ici en France, enfin en tout cas à Paris, d'avoir cette idée de désobéissance. Les Belges en parlent un peu dans leur texte d'appel, mais ils en ont pas fait. Pour l'instant, ça se résume à des marches. Les autres pays également. Nous, on a voulu ça parce que, voilà, vous connaissez peut-être le slogan « Les manifs, c'est sympa, mais ça suffira pas ». On voit que depuis septembre, on a des dizaines de milliers de gens dans les rues à chaque fois qu'il y a une marche pour le climat. Et on a un silence total de la part du gouvernement. Donc on sent bien qu'il faut passer à d'autres actions.
Ouais. Concrètement, ça veut dire quoi, désobéissance ?
Alors ouais, c'est un concept à définir. En général, on l'associe à la non-violence. On s'est mis d'accord là-dessus en AG au sein du mouvement. La non-violence, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est pas de violence directe contre les êtres vivants. La désobéissance, ça peut être différentes formes, mais il y a un type de désobéissance très stratégique en général, c'est le blocage ou l'occupation qui permet, ben, par exemple, voilà, d'arrêter des chantiers néfastes pour l'environnement ou des entreprises écocides. On peut bloquer des sièges d'entreprise, on peut stopper des chantiers comme l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou la forêt de Romainville au nord de Paris. Et ça, voilà, ça permet à la fois de rassembler et d'empêcher un projet qui est néfaste pour l'environnement.
Vous, votre idée, c'est de dire aujourd'hui, l'écologie gentille, c'est fini ?
C'est pas fini. Nous, on revendique vraiment la multiplication des modes d'action. Je suis pas seulement un désobéissant et je suis pas seulement dans mon collectif de désobéissance. Je reste toujours, et c'est ce qui m'occupe d'ailleurs la plupart de mon temps, un associatif traditionnel. J'essaie de faire bouger les choses dans mon campus, je travaille avec l'administration, j'installe des panneaux solaires sur mon école et je fais en sorte que le tri des déchets avance. Et je suis aussi dans une action de plaidoyer européen pour le pacte finance climat et j'espère qu'il puisse y avoir aussi au niveau politique européen des changements.
Mais c'est des petits pas qui suffisent pas finalement, c'est ce que vous essayez de dire.
Voilà, c'est des petits pas qui suffisent pas. C'est aussi qu'en fait quand on est un associatif écolo, l'écologie c'est une frustration constante. On agit. On met un effort considérable et on a des effets presque nuls par rapport à ce qu'on a investi. Et donc, voilà, chaque petit pas est bon à prendre et on essaie quand on peut de faire des grands pas, mais c'est assez rare.
Vous sentez quand même que la jeunesse est concernée par tout ce qui se passe, que tout ce dérèglement climatique et l'urgence finalement, elle est bien comprise, intégrée. Est-ce que c'est pas jugé par les jeunes comme étant peut-être trop lointain, eux qui ont peut-être des échéances un peu plus concrètes, un peu plus proches d'eux?
On ne peut pas faire de généralité, on ne peut pas dire tous les jeunes sont, ça c'est sûr. D'une manière générale, quand même, il y a, je pense, une prise de conscience plus forte chez les jeunes aujourd'hui que la génération précédente. Ça me semble assez indéniable, puis on sent de plus en plus une crise du sens, une perte du sens. À quoi ça sert de bosser, de faire ce qu'on fait aujourd'hui si le monde dans 30 ans n'est plus du tout le même et que tout s'effondre, quoi. Donc à partir de là, on voit des prises de conscience, mais pas de généralité. On fait toujours face à des climato-sceptiques, même chez les jeunes, et c'est quelque chose contre lequel il faut lutter, quoi.
Quand vous voyez, par exemple, aussi que le Premier ministre reçoit les personnes qui ont signé la pétition « L'affaire du siècle » et qu'il n'y a pas vraiment de réponse de la part de l'exécutif, ça vous déçoit, ça vous démoralise ?
En fait, je m'y attendais. Enfin, en fait, je m'attendais même à ce qu'il y ait aucune réponse même du gouvernement avant vraiment le procès, quoi. On attendait vraiment pas grand-chose du gouvernement. L'affaire du siècle, c'était surtout un symbole qui permettait de montrer quelque chose d'absolument hallucinant, c'est-à-dire plus de 2 millions de citoyens d'un État qui portent son propre État en justice. C'est quand même hallucinant et il a fallu attendre aussi longtemps que ça pour avoir une réponse. Mais bon, on s'y attendait. Après, bon, les actions en justice, il y en a eu au Danemark et des choses comme ça, c'est pas forcément ce qui amène des résultats concrets, c'est surtout une valeur symbolique. Et c'est pour ça, je reviens là-dessus, qu'on est toujours sur la multiplication des modes d'action, par exemple, et certaines actions de désobéissance permettent d'empêcher la construction d'un aéroport, ou les Gilets jaunes, en quelques mois, ont obtenu beaucoup plus de choses que nous, quand on met 50 000 personnes dans la rue chaque mois à partir de septembre, quoi.
Merci Antoine Soulas. Je rappelle cet appel à se rassembler demain devant le ministère de la Transition écologique à Paris. Cela commence à 14h et d'autres rassemblements sont prévus un peu partout en France. Le temps de ce vendredi ensoleillé après la dissipation des brouillards matinaux. Les températures minimales de 1 à 8 degrés jusqu'à 21 degrés dans le Var en après-midi. Ce journal a été préparé et réalisé par Moussa Le Chili avec Clément Daté à la technique.